SBS Radio.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Eh bien aujourd'hui dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler langue et on est avec quelqu'un qui est un hyper polyglotte, Richard Simcott. Bonjour Richard.
Bonjour.
Hyper polyglotte, ça veut dire que vous parlez combien de langues ?
C'est difficile à dire en fait. Moi j'en ai étudié à peu près 50 langues dans ma vie, mais j'en parle quotidiennement à la maison 5.
Comme ça, 5 langues.
Oui, je parle anglais, ça c'est ma langue maternelle, puis je parle français avec ma fille, je parle espagnol. Allemand aussi avec ma fille, et puis avec ma femme, je parle macédonien.
Ouais, ça fait quand même pas mal. comment on débute avec cet amour de la langue, pour vous ? C'est venu d'où ?
En fait, j'adorais... quand j'étais petit au Royaume-Uni, j'adorais les accents différents. Donc j'ai commencé à apprendre à imiter les accents. Et puis en vacances, je parlais avec les autres enfants qui parlaient plusieurs langues. Le norvégien, le français, l'espagnol et tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas apprendre les mots et la grammaire avec l'accent. Et puis, je communiquais dans une autre langue. Et c'est comme ça, en fait.
D'accord. Et c'est là d'où vient cet amour de la langue, depuis tout petit, en fait. C'est important d'apprendre petit, les langues, parce qu'on entend parler que faut vraiment, si on a des enfants, il faut les pousser vers l'apprentissage d'autres langues le plus rapidement possible. C'est vrai ? Il y a de la vérité là-dedans ?
Je crois que c'est possible pour tout le monde d'apprendre une langue étrangère, donc il n'y a pas de problème comme adulte par exemple apprendre une autre langue, mais en fait pour les enfants il n'y a pas ces barrières psychologiques, ce qu'on a comme adulte, et ça c'est la différence entre les enfants et
donc
les adultes.
Donc la peur, la honte, l'échec, etc.
C'est ça, oui. Donc il faut faire des erreurs, c'est normal, même en anglais, même en français. Maintenant je parle français depuis je ne sais pas combien d'années, je l'ai appris quand j'avais à peu près 5 ans, donc je parle assez bien je crois, mais même comme ça en français ou en anglais, des fois je fais des fautes, je fais des erreurs de grammaire, ou bien il me faut chercher un mot, ou je ne sais pas, je prononce un mot sans réfléchir, je sais pas, et c'est une faute, c'est une erreur, mais ça empêche pas la communication. Je suis capable d'avoir une interview en même temps en français avec vous et ça marche assez bien.
Ouais, puis vous avez fait les Italiens avant, vous faites les Espagnols demain, il y a les Macédoniens qui nous regardent de travers de l'autre côté parce que vous êtes en train de nous parler à nous. Quand vous arrivez dans un univers comme SBS où on parle 68 langues, vous connaissiez SBS déjà d'avant ?
Oui, bien sûr, c'est connu.
En tout cas dans le monde des langues.
Ouais, bien sûr.
Mais voilà, c'est un univers, vous êtes chez vous presque.
Ouais, c'est, pour moi en vrai c'est comme chez moi. J'organise la conférence Polyglot, Polyglot Conference. Je travaille beaucoup avec Assimil. En fait, que
la méthode Assimil, on connaît la méthode Assimil en France bien sûr.
Ouais, et donc je travaille avec eux aussi. C'est les sponsors principaux en fait chaque année de la conférence Polyglot. Et je travaille avec eux, ils sont super, donc les gens fantastiques. Et je travaille avec eux. On va au Japon le mois prochain, en fait, en octobre. Et donc, pour moi, être ici, c'est comme chez moi, à la conférence polyglotte.
D'accord. Alors, parlez-nous de cette conférence justement polyglotte. À partir de quel moment on devient polyglotte ? À partir de combien de langues on peut dire polyglotte ? Moi, je parle français et anglais. Ça fait pas de moi un polyglotte.
Ça fait quand même bilingue. Mais enfin, polyglotte, ça dépend ce qu'on pense. À mon avis, il y a bilingue, multilingue. Multilingue, c'est quelqu'un qui a appris plusieurs langues. Les luxembourgeois, par exemple, c'est des gens multilingues. Parce qu'ils ont appris les langues à force d'être luxembourgeois. Mais parce qu'il faut parler français, allemand, puis luxembourgeois, l'anglais, et peut-être une autre langue aussi. Mais c'est parce que on apprend ça juste comme ça, c'est la vie quotidienne, la vie normale. Polyglotte, pour moi, c'est quelqu'un qui veut apprendre une langue étrangère dont il n'a pas besoin dans la vie quotidienne. Donc, pour moi, même quelqu'un qui apprend, je sais pas, l'anglais, français et puis une autre langue, c'est une langue qu'on n'utilise pas dans la communauté, c'est déjà pour moi, s'ils veulent dire « je suis polyglotte », cette personne est polyglotte, il n'y a pas de problème.
D'accord. Est-ce que il y a des, on entend beaucoup de on-dit, de rumeurs sur certains pays, certaines nations qui apprennent mieux les langues que d'autres. On dit les pays du Nord, les Scandinaves parlent mieux l'anglais, une approche par rapport aux langues plus simple que le français. Hein, les Français de base ne parlent pas l'anglais non plus, donc il a même du mal des fois à gérer le français. Mais est-ce qu'on peut voir vraiment à une grande échelle, donc quand on fait des études dans les langues, se dire qu'il y a des pays qui sont plus ouverts vers d'autres langues que certains.
À mon avis, ça a quelque chose à voir avec le sous-titrage à la télé.
D'accord, le doublage,
oui. Oui, le doublage. Parce que, oui, on a des sous-titres dans les pays scandinaves, mais en France, c'est le doublage. Donc on n'entend que le français. Il y a beaucoup de chansons françaises, très très bonnes chansons françaises en fait. Moi j'adore la musique française. Mais si on traduit tout le temps, on n'a pas besoin de notre langue. Mais si on habite dans un pays comme le Danemark ou bien, je ne sais pas, le Suède, on a besoin de parler notre langue parce que déjà, on entend les autres langues chaque jour.
Mmh. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. C'est intéressant par rapport à, voilà, justement, ce n'est pas simplement une culture dont on est réfractaire aux langues. C'est l'univers en lui-même qui crée ou qui ne crée pas justement cette base.
Et ça change la mentalité automatiquement en fait dans le pays.
Mmh. On parle aussi également de, justement, on parle de mentalité, de quand un enfant ou quand un jeune apprend une autre langue petit, ça développe le cerveau différemment. Est-ce que c'est prouvé ça? Est-ce qu'on sait que apprendre une langue, ça va forcément aider le cerveau à fonctionner peut-être différemment que si on n'avait pas une, deux, trois, quatre autres langues?
C'est ça que je suis entendu aussi, moi aussi. Mais en fait, moi, j'ai jamais fait des recherches moi-même pour dire 100%, mais c'est ça qu'il me semble que c'est vrai, parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes dans ce monde qui me disent que c'est comme ça, en fait. On peut réfléchir un peu différemment sur les problèmes, par exemple, si on veut résoudre des problèmes ou si on pense aux thèmes différents, par exemple. On peut avoir déjà notre perspective, notre point de vue, en fait, sur le monde.
D'accord, alors parlez-nous de cette conférence, c'est la combien d'éditions, et puis qu'est-ce qui va se passer à Melbourne sur cette conférence de langue, de polyglotte?
En fait, à Melbourne maintenant, c'est un événement ce qu'on va organiser ce week-end, et ça c'est lié à la conférence, à la Polyglot Conference, la conférence polyglotte, parce que c'est un peu plus petit. Pour moi, je vais parler de ce que j'ai fait avec ma fille, avec les langues à la maison. Puis je vais donner des conseils pratiques pour les parents et pour les enfants, pour les gens en général qui ont l'intérêt de faire quelque chose de genre avec, soit avec leurs enfants, avec leur famille ou avec leurs élèves. Et puis je vais parler aussi de mon monde polyglotte, ce que je fais dans la vie, comment séparer les langues, comment je fais pour pratiquer plusieurs langues à la fois et comment aussi apprendre des autres. Et donc, je vais traiter de ces deux thèmes. Puis, j'ai aussi invité quelqu'un de l'université d'Adelaide, Gilad Zuckerman. Il va parler aussi de ce qu'il fait. Son travail, c'est les langues indigènes, ce qu'il faut protéger. Et ça, c'est le thème, en fait, de cette année, les langues indigènes du monde.
D'accord. Est-ce qu'il y a un moment, je sais pas, dans votre vie, vous êtes fatigué, vous mélangez le norvégien et le suédois, ou est-ce qu'il y a un moment où on arrive quand même à garder cette barrière dans la tête?
C'est normal. Je crois que oui, parler deux langues comme le norvégien et le suédois, c'est normal. On va les mélanger un peu, mais ça n'empêche pas la communication. Et à mon avis, ça c'est la chose principale. Si on sait communiquer les idées dans la tête comme on veut. Et avoir des relations, des amitiés, ça c'est déjà une chose. Et il ne faut pas nier ça juste parce qu'on fait quelques fautes.
D'accord. Et si vous aviez un conseil à donner à un couple qui a un parent français et un parent d'une autre nationalité, donc les langues différentes, comment on approche les langues avec un enfant? S'il y avait deux, trois secrets comme ça qu'on pouvait... parce que moi je l'ai vécu, c'est compliqué... Mmh. C'est compliqué au jour le jour, c'est toujours compliqué des années après, même si on trouve un peu sa stabilité. Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il y a une recette?
Ben, un secret que je pourrais donner maintenant, c'est qu'il ne faut pas dire comment ils s'appellent, en fait, les noms des langues. Donc, si on parle français, on ne dit pas, par exemple, dans vos cas, c'est le français et l'anglais. Donc, c'est dire la langue de papa et l'anglais, la langue de maman. Parce qu'un enfant ne peut pas dire « Non, je ne vais pas parler la langue de papa. » Mais un enfant peut dire « Je ne veux pas parler français. »
D'accord.
Parce que c'est pas personnel, c'est pas l'amour. Parce qu'il y a trop d'amour pour le, envers les parents, pour un enfant. Donc, un enfant peut pas rejeter, en fait, les parents, peut pas, mais peut bien sûr rejeter une langue.
Et est-ce qu'il faut forcer les enfants à parler une autre langue? On va dire, je vous donne un exemple personnel, on a deux enfants, deux amis, tous les deux parlent français, elles parlent aussi anglais, elles jouent de facto en anglais. Est-ce qu'on peut aller leur dire, vous jouez en français?
À mon avis, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'il faut éviter la négativité envers les langues pour les enfants, parce qu'un enfant va choisir la langue pour la communication, la meilleure en fait, langue pour la communication. Donc, un enfant ne va jamais décider d'apprendre plusieurs langues, juste parce qu'ils sont conscients de pouvoir chercher de boulot après, ou pour aller à l'université ailleurs. Ça va jamais être, ça va jamais arriver. Donc, à mon avis, il faut être réaliste. Il faut dire, d'accord, l'enfant va comprendre cette langue. Même si l'enfant ne va pas parler très bien, ça aide déjà à pouvoir comprendre la communication. Et donc, plus tard dans la vie, l'enfant peut prendre les mots, la grammaire qu'ils ont entendus, et puis les mettre dans un, je sais pas, de les activer, comment on dit en français, on dit activer, oui. En
fait, je vous laisse vous corriger tout seul.
Hein. Ouais, donc les activer. Et donc, à mon avis, c'est déjà quelque chose. Et j'ai aperçu ça même avec ma fille. Elle a du mal à parler très bien l'allemand ou l'espagnol, mais elle comprend. Et quand on était au Mexique, il y a un mois, puis elle parlait avec les gens en espagnol, il n'y avait pas de problème, elle comprenait bien la langue.
D'accord. Et les langues mortes dans tout ça? Le latin?
Le latin? En fait, si la langue est morte, la langue est morte. Mais non, ça, on peut révélitiser en fait une langue aussi, c'est possible. Il y a des gens qui parlent le latin, par exemple. À Rome, il y a des cours de latin.
Donc, comment? Alors, c'est une question pour vous, parce que s'il y a des gens qui continuent à parler le latin, comment on peut dire que c'est une langue morte? Qu'est-ce qui définit une langue morte s'il y a encore des gens qui la parlent?
Oh, ça, c'est intéressant aussi. Il y a des gens qui disent que ouais, il y a des autres langues mortes, mais il y a des gens quand même qui parlent. À mon avis, une langue morte, c'est une langue morte qu'on ne parle pas. Si on parle, est-ce que c'est vraiment une langue morte? C'est notre question.
Absolument. Et l'espéranto dans tout ça?
Et l'espéranto, oui, ça se parle. Ça se parle.
Ouais, mais le rêve espéranto. Vous qui êtes,
vous qui êtes
un linguiste, qui parlez plein de langues, qui vivez au jour le jour dans un monde en multilangue, mm-hmm. avoir ce rêve d'uniformité d'une langue comme l'espéranto, c'est pour vous, c'est quoi? C'est saugrenu? Ça se place où, le rêve espéranto?
Le rêve espéranto, en fait, c'est le rêve anglais, à mon avis. Donc, l'anglais, déjà, est partout. Donc, on utilise l'anglais. C'est dommage, pour moi, comme britannique, comme anglophone, parce que partout, tout le monde veut parler anglais, tout le monde veut apprendre l'anglais. Ça, c'est normal. Mais quand même, apprendre une autre langue, ça change la vie. Ça change vraiment les perspectives, ça change aussi les possibilités de voyager, les possibilités de travailler avec des gens différents, dans les pays différents. Parce que même si l'anglais est une langue parlée par plusieurs personnes, même en Suède, les gens en Suède qui habitent en Suède veulent aussi parler suédois. C'est pas ce qu'ils veulent maintenant, remplacer l'anglais ou le suédois par l'anglais.
Ouais. Puis il y a des langues intéressantes comme l'ukrainien, par exemple, qui était une langue en train de mourir au niveau de la jeunesse, et puis du fait des actions politiques des uns des autres, ouais. Aujourd'hui les jeunes en Ukraine ne veulent plus forcément parler le russe, ils veulent plutôt réapprendre, se réapproprier cette langue comme l'ukrainien.
Ça c'est vrai aussi, oui. C'est vrai qu'il y a des motifs politiques entre tout ça en fait. Et ça c'est vraiment très compliqué, tout ça. Et
mais c'est la beauté des langues. C'est ce qui fait la beauté des langues.
Ouais, c'est ça. En fait, moi j'adore les cultures, j'adore les gens. Et donc pour moi, une motivation pour moi extrêmement importante, c'est ça. C'est la communication avec une culture que j'adore, que j'aime bien ou que je veux connaître mieux. Et ça, c'est la motivation.
D'accord. Allez, dernière question. Plus d'informations sur cette conférence. Et est-ce que le general public, en anglais, est-ce que le public peut y venir? Et où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations?
Il y a le Melbourne. Pour ici à Melbourne, c'est possible de venir. Oui, bien sûr.
Il faut rappeler que c'est à Melbourne, on n'est pas à Sydney ni à Adelaide.
Non, c'est ici. C'est à Flinders Lane, donc c'est juste à côté d'ici. Oui, c'est possible sur Facebook. Si on paye The Language Event Melbourne, on va le trouver très facilement. C'est public, donc on peut acheter des billets, on peut venir et... Bienvenue tout le monde.
On peut venir et puis parler et entendre d'autres langues. C'est aussi important de les entendre, de les écouter.
Oui, c'est ça aussi, oui.
Merci Richard.
Bon, je vous en prie, merci.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.